I'm turning now to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 11 and verse 5.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 5. Mais j'estime que je n'ai été en rien inférieur aux plus excellents apôtres. Et notre sujet, c'est la vie de Paul. En partant de l'information autobiographique qu'il nous donne ici et dans le chapitre d'après, l'Église à Corinthe, oh je ne vais pas récapituler ce que l'on a déjà dit, a été corrompue par rapport à la sincérité, la simplicité de la foi dans notre version, c'est-à-dire la sincérité de la foi en Christ, la foi sincère dans les choses fondamentales de la foi. Ils ont été sauvés par la grâce, ils ont cru dans la croix du calvaire et le besoin de la mort expiatoire de Christ, du salut comme un don gratuit donné par Dieu. Mais à présent, les judaïsants, les hérétiques sont venus dans cette église et suivaient Paul d'église en église. Ils sont entrés dans cette église et ils les ont convaincus qu'ils avaient besoin de pratiquer les cérémonies des Juifs, que Christ n'était pas suffisant, que le salut n'était pas par la foi uniquement. Et l'Église a été corrompue, et c'était grave. Ils s'en sont repentis, comme nous avons lu auparavant. Ils ont réalisé leur erreur, ils se sont repentis, mais ils ont besoin de ce cours, si vous voulez, pour que les choses soient claires pour eux, quelle était leur erreur, et pour être sûr que ceci ne se répète pas. Ils se sont repentis, mais il fallait expliquer ce qui était allé de travers. L'apôtre Paul, en tout cela, a été humilié, a été critiqué, et ces hérétiques ont répandu une avalanche de critiques contre l'apôtre Paul. Ils ont dit toutes sortes de choses contre lui, et malgré lui, il doit se défendre ici. Non pas qu'il est intéressé de se défendre lui-même, mais il est un apôtre, et il a été appelé par cette responsabilité. Il est celui qui porte ces épîtres du Nouveau Testament qui sont inspirés. Il a cette fonction particulière, cette autorité particulière qui n'a jamais été répétée dans l'histoire après les premiers apôtres. Et ainsi, il est important qu'il défende son ministère d'apôtre. À partir du verset 5, « Mais j'estime, leur dit-il, et ceci fait partie de sa défense, mais j'estime que je n'ai été en rien inférieur aux plus excellents apôtres. » Et immédiatement, il y a un débat ici. À qui il se réfère ici? Dans le passé, les commentateurs étaient sûrs qu'il se référait aux apôtres principaux. En particulier, les plus importants, en dehors de Paul dans l'Écriture, c'est-à-dire Pierre et Jean. Les judaïsants sont venus de Judée, et en particulier de Jérusalem. Et l'une de leurs déclarations fausses pour mettre en avant leur hérésie, leur enseignement, c'est de dire « Nous, nous venons de Jérusalem et nous connaissons de près les apôtres » et ceci n'était pas vrai. « Et nous, nous-mêmes, nous avons été envoyés pour être apôtres. » C'était là ce qu'ils déclaraient. Et c'était un non-sens, bien sûr. Et ils disaient qu'ils connaissaient les apôtres. Et ils disaient « Mais qui est Paul ?» qui parle aux non-juifs et qui prêche quelque chose de différent, mais ce n'était pas différent. Mais c'est ce qu'il disait, ce qu'il déclarait. Et Paul est obligé de dire et poussé à dire « Je n'ai été en rien inférieur aux plus excellents apôtres. » Mais de nos jours, certains commentateurs disent que c'est une référence aux faux enseignants. « Je n'ai été en rien inférieur aux plus excellents apôtres » ou aux principaux soi-disant apôtres qui sont venus parmi vous. Mais personnellement, je pense que les auteurs anciens ont raison. Le sens naturel de ce passage, c'est que ceci se réfère aux apôtres, Pierre, Jean. Il n'est pas différent de Pierre, pas différent de Jean. Ils ont été appelés par le Seigneur et lui, de même, il a été envoyé par le Seigneur ressuscité. Ils avaient la capacité de faire des miracles et des prodiges pour authentifier qu'ils sont apôtres. Et de même, pour l'apôtre Paul, ils ont été utilisés pour donner la révélation, la prédication de la parole de Dieu, de l'Évangile d'une manière puissante. Et de même, l'apôtre Paul, il a ces caractéristiques qui l'authentifient comme étant un apôtre. Et c'est là ce que Paul dit. Il ne dirait pas ceci si l'église de Corinthe n'avait pas été dans l'erreur, s'il n'avait pas critiqué son ministère d'apôtre. Au verset 6, il continue « Si même quant au langage, je suis comme un homme du commun, c'est-à-dire simple. » Ce qu'il a à l'esprit ici, c'est Corinthe, combien ils aimaient leur culture et les grands orateurs grecs. Leur capacité oratoire était tellement bonne, il y avait tant de mots et c'était si sophistiqué. À l'époque, ceci montrait leur instruction, leur éducation, et ils étaient proches des philosophes, et les Grecs éduqués étaient si fiers de leur culture éduquée et leur style oratoire. Et l'apôtre Paul ne suivait pas ce style oratoire, et il parlait de manière claire. Ce n'était pas quelque chose qui était rustique et qui était dur ou qui n'était pas sophistiqué, mais c'était sans ornement, sans choses superflues, c'était clair. Et même quant au langage, je suis comme un homme du commun. C'est pour ceci que c'est plus facile de lire les épîtres de l'apôtre Paul de nos jours que tout écrit grec de la même époque. Et de même, de nos jours, vous lisez des livres du 19e siècle, du 20e siècle, il y a un langage compliqué qui est utilisé, beaucoup plus compliqué que de nos jours. Et c'est surprenant, c'est comme si nous sommes revenus au style des apôtres, même dans cette période scientifique de nos jours. Si même quant au langage, je suis comme un homme du commun, je ne le suis pas quant à la connaissance. Il ne dit pas qu'il est meilleur que l'apôtre Jean, que l'apôtre Pierre, mais il a reçu toutes les doctrines de la foi et il les enseigne. Mais il dit « Mais nous nous sommes fait connaître parmi vous à tous égards et en toutes choses. » L'une des caractéristiques particulières des vrais apôtres, c'est qu'ils étaient ouverts, leur enseignement était clair, ce n'était jamais mystérieux, ésotérique, bizarre ou contradictoire. Et je pense que ce qu'ils veulent dire ici, c'est « Nous nous sommes fait connaître parmi vous » dans leur puissance d'authentification, avec des miracles, des signes, des prodiges, ils ont été manifestés ouvertement. Ils avaient ce sceau de leur ministère particulier d'apôtre pour le début de l'Église. Et avec une certaine ironie, l'apôtre Paul continue au verset 7. Ceci parle de la consécration totale de l'apôtre Paul au verset 7. « Ai-je donc commis un péché parmi vous ?» en m'abaissant moi-même, afin que vous soyez élevés. À quoi est-ce qu'il se réfère ici? Il se réfère à sa pratique de toujours travailler pour gagner son pain. Partout où il prêchait, il était soutenu dans une certaine mesure par les églises qu'il avait évangélisées plus tôt, mais principalement, il se soutenait lui-même. Comme tous les intellectuels juifs de l'époque, il avait une profession d'artisanat. Tout garçon juif, quand il était éduqué, il apprenait également un métier manuel. Et dans le cas de l'apôtre Paul, il faisait des tentes à partir de poils de chèvre, etc. C'était difficile et c'était un travail dur. Et partout où il allait, dans des villes, il cherchait ceux qui faisaient des tentes et il était disponible et il travaillait. Souvent dans la nuit, il parle de ces nuits où il ne dormait pas, c'est parce qu'il travaillait, il travaillait dur, il ne voulait pas accepter de l'argent dans ces endroits où il évangélisait. Et ce n'est pas un principe pour nous, mais il souligne ceci, et également ailleurs, que c'est la volonté de Dieu que les prédicateurs, les évangélistes soient soutenus financièrement. Mais lui ne faisait pas ceci personnellement, parce que, comme étant le premier grand prédicateur pionnier et celui qui a mené la mission parmi les non-juifs, il ne voulait pas que les gens pensent qu'il prêchait pour le gain. Il y avait toutes sortes de prédicateurs qui allaient d'église en église et qui voulaient faire du gain. Mais à Corinthe, ce n'était pas une bonne chose, parce que les Grecs, c'était leur profession que de parler. Ils se tenaient dans des endroits publics désignés et ils donnaient leurs cours. Et les gens payaient pour leurs cours plus, et ils payaient plus. Le cours était important. Et si vous étiez quelqu'un qui faisait ceci gratuitement, vous étiez comme un amateur qui n'était pas professionnel, vous étiez ignoré et humilié. Ainsi, pour ces gens hérétiques qui aimaient rassembler de l'argent pour eux-mêmes, même pour les Corinthiens, ils préféraient payer ces faux enseignants très cher. Mais l'apôtre Paul, lui, a vécu une vie simple, il a prêché gratuitement. Ai-je donc commis un péché en m'abaissant moi-même à vos yeux, afin que vous soyez élevés, parce que je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu ? Dans leur valeur bizarre, inversée, ceci était inversé et tordu. J'ai dépouillé les autres églises. Parfois, il était soutenu par d'autres églises, en recevant d'elles de quoi m'entretenir pour vous servir. Et au verset 9, et nous voyons la consécration totale de l'apôtre Paul. Et lorsque je me suis trouvé dans le besoin parmi vous, il avait de grands besoins. Il ne pouvait pas gagner suffisamment d'argent. Sans aucun doute, il aidait également les pauvres. Je n'ai été à charge à personne, car les frères qui étaient venus de Macédoine ont suppléé à ce qui me manquait. Précédemment, il a fondé l'église de Philippe et de Thessalonique. Et en toute chose, je me suis gardé, et je me garderai de vous être à charge. Et je continuerai de faire ceci. Et ensuite, au verset 10, je continue rapidement parce que je veux en arriver à un autre point. J'en atteste la vérité de Christ qui est en moi. Personne ne m'empêchera de déclarer ceci. Ce sujet de gloire ne me sera point ôté dans les contrées de l'Achaïe. Dans toute l'Achaïe, vous n'avez trouvé personne qui va vous dire que j'ai pris leur argent dans cette ville où j'ai prêché l'Évangile. Pourquoi ? Pourquoi ceci ? Et nous voyons son ironie. Est-ce parce que je ne vous aime pas ? Dieu le sait. J'ai fait ce sacrifice parce que j'étais en souci pour votre âme. Et ensuite, ce verset un peu obscur, verset 12, « Mais je le fais, et je le ferai encore, ce sera toujours ma pratique, pour ôter tout prétexte à ceux qui cherchent des prétextes, en sorte qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Je ne veux pas donner une chance aux faux enseignants de dire qu'ils rassemblent de l'argent de votre part, comme moi je l'ai fait également. Je ne veux pas leur donner l'occasion de dire qu'ils font la même chose que moi. Ainsi, je mets à la lumière leur convoitise et leur avarice, et moi, je ne reçois aucun argent. » La consécration de l'apôtre Paul, il était prêt au sacrifice. Et si je peux commenter personnellement, je trouve que c'est difficile d'écouter un prédicateur sur Internet, par exemple, même si c'est quelqu'un qui se dit réformé, mais quelqu'un qui, par exemple, gagne 2 millions de dollars par an, plus des royalties par rapport à ses livres. Oh, peut-être que c'est quelqu'un qui admire Calvin, et je ne comprends pas, parce que ceci n'est pas du tout semblable à Calvin ou à l'apôtre Paul. Oh, si vous êtes payé en tant que pasteur, vous ne devriez pas gagner un tel salaire ou avoir des royalties pour vos livres. Mais l'apôtre Paul nous montre un exemple. C'est une période où les chrétiens sont facilement enveloppés par le luxe et l'affluence et la richesse, mais ce n'est pas bon si les prédicateurs font de même. L'apôtre Paul est un exemple pour nous. Et il continue, il parle des faux enseignants. Ceci nous amène à un deuxième point, défendre la foi. Il se réfère à présent à ces gens qui enseignent des choses fausses. Car de tels hommes sont de faux apôtres, ou des pseudo-apôtres, littéralement, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Et je vais commenter sur ce terme, se déguiser, dans un moment, en apôtres de Christ. Et il les met à la lumière. Et ces versets remarquables, ils défendent la foi. Et cela n'est pas étonnant. Nous ne devrions pas être étonnés ou être surpris, car ces faux enseignants, on les explique facilement, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Se déguise à nouveau, ou transformé. En grec, littéralement, c'est un terme à 6 syllabes. C'est adopter une forme, ou se déguiser, ou prétendre. Les versions modernes ici utilisent ce terme, se déguiser. C'est un bon terme. Prétendre. Se déguiser en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Il a toujours fait ceci. Il l'a fait dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit « Tu ne mangeras pas du fruit de tous les arbres du jardin ?» Il vient, voyez-vous, Comme un ange de lumière, il dit à Ève, « Oh, je dois t'aider en cela, Dieu sait !» Et si tu prends du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors tu seras comme lui. Ceci ouvrira tes yeux et tu connaîtras une nouvelle dimension de la vie. Tu connaîtras le bien et le mal qu'il te cache. Et alors tu connaîtras toutes sortes de choses que tu n'as pas le droit d'avoir à présent. C'est pour toi. Il se déguise en ange de lumière. Il vient de manière subtile, rusée, pour essayer de nous aider, ou il prétend nous aider. Et il dit à Ève, « Ce fruit est bon à manger, et alors tu deviendras sage, intelligente. » Voyez-vous, c'est toujours la technique utilisée par Satan, sa méthode, que le mal soit attirant et rendu semblable au bien. Vous voyez ceci dans la tentation de Christ. J'hésite toujours à me référer à la tentation de Christ par Satan, parce que ces choses sont si profondes. C'est très difficile pour nous de comprendre ce récit, la puissance, la profondeur de ces choses, parce qu'on lit si facilement dans Matthieu chapitre 4, et le diable, dans un certain sens, et c'est simplifier les choses, le diable dit à Christ, tu as faim, tu as jeûné 40 jours, utilise ta puissance et démontre ta puissance à tous. Crée de la nourriture pour que tu puisses avoir de la nourriture et tes besoins seront satisfaits. Et Christ, le Dieu éternel, qui a pris une personnalité humaine, une forme humaine avec toute sa faiblesse, et il avait faim. Et le diable lui dit, démontre ta puissance divine en tant qu'homme, mais ceci détruirait le plan du salut. Et va en haut du temple et laisse-toi tomber, il y a une grande présence là. Et tu atterriras dans la sécurité. Et alors, instantanément, ils verront ta divinité. Mais plus d'humiliation, pas de croix du calvaire. Tu n'as pas besoin de faire ceci. Il vient comme étant un ange de lumière déguisé. La tentation de Christ sur sa nature humaine a dû être si intense, égale à 1 million de tentations sur tout autre être humain. Mais c'était le diable déguisé comme un ange de lumière. Et reconnais-moi comme étant égal au Père. C'est là ce que Satan voulait. Et alors je te laisserai régner sans la croix du calvaire. Mais Christ est venu pour mettre fin au mal et avoir la victoire sur le mal. L'apôtre Pierre, « Qui dites-vous que je suis ?» dit Christ. Et Pierre répond correctement. Mais Christ lui dit, « Mais je serai arrêté, crucifié. » Et Pierre dit, « Loin de toi, Seigneur, ceci ne peut pas se passer, nous n'allons pas laisser ceci se passer, nous allons te défendre contre toute persécution. » Et Christ lui dit, « Arrière de moi, Satan. » C'est comme ce qu'il a dit à Satan durant la tentation dans Matthieu 4, parce que c'était Satan qui disait à Pierre, « Ne le laisse pas faire ceci, arrête-le. » Satan se déguise comme un ange de lumière, il est le sauveur. « Protégez-le, ne le laissez pas mourir !» Et Pierre, dans son ignorance, ne savait pas qu'il était la bouche de Satan pour essayer d'arrêter l'humiliation de Christ et sa mort expiatoire à la croix du calvaire, mais c'est là ce qu'il faisait. Le diable, déguisé en ange de lumière, a toujours essayé d'empêcher l'œuvre d'expiation de Christ. Et il a fait également cette œuvre par le biais des judaïsants qui sont allés à Corinthe en disant « Vous n'avez pas besoin de vous repentir de votre péché, de vous confier en Christ. Vous pouvez être fiers et gagner votre chemin vers Dieu. Vous pouvez simplement être circoncis et garder les cérémonies. Oh, ce n'est pas la grâce, c'est les œuvres. Vous pouvez être fiers de vous-même et vous accomplissiez votre chemin vers le ciel. » Et le salut a été détruit. Mais il a amené quelque chose qui les a tirés. Vous n'avez pas besoin d'être consacrés, comme l'apôtre Paul le dit, et les autres prédicateurs qui l'accompagnent, vous n'avez pas besoin d'être consacrés. Vous pouvez simplement prendre des raccourcis, garder vos idoles. Satan, qui se déguise en ange de lumière, est de même aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre musique rock, votre musique rap, pour être un chrétien. Vous n'avez pas besoin d'abandonner le monde. Vous n'avez pas besoin d'abandonner les séries télévisées et les divertissements qui font ce lavage de cerveau. Vous n'avez pas besoin d'abandonner les convoitises. Vous pouvez être chrétien et être mondain en même temps. Venez dans notre église, nous faisons tout ce genre de choses. et vous pouvez venir à ce concert, vous pouvez vivre une vie chrétienne et en même temps vivre la vie d'un non-chrétien. En même temps, ne soyez pas fanatique, il vient comme un ange de lumière constamment. Les jeunes gens, vous devez savoir et être conscient que la culture d'aujourd'hui est unique. Elle est venue depuis les dernières décennies uniquement. La culture n'a jamais été comme celle d'aujourd'hui. Se mettant en avant, pleine de pitié pour soi, pleine de considération pour soi, et tous les records du nombre de personnes qui consultent les psychologues et les psychiatres. Oh, il y a des gens qui en ont besoin, oui. Nous savons ceci, il y a des gens qui souffrent, qui sont réellement malades, et ils ont besoin d'aide, de professionnels. Mais de nos jours, ils nous disent qu'il y a 20 fois plus de gens qui consultent les psychologues et les psychiatres qu'il y a 30 ans. Réellement, 20 fois plus de gens qui sont malades. Oh, c'est un non-sens. Cette société décline et c'est les gens qui sont reprogrammés et qui ont ce lavage de cerveau pour penser que ce monde vous fait du mal, que vous n'avez pas besoin d'avoir un caractère, de résister à ce monde. Mais c'est la faute de votre environnement, c'est la faute de vos parents ou de toutes sortes d'autres personnes, c'est la société d'aujourd'hui. Ce qui est important, c'est vous. Et les séries télévisées, les films, oh, je ne les regarde pas, mais mon impression, c'est que ces choses à la télévision sont des gens qui sont émotionnels et tellement mous. Et si vous regardez ces choses, vous pensez que c'est ainsi que vous devez vous comporter, comme ces gens qui se plaignent constamment. Chers amis, la société moderne est unique, extraordinaire, ça n'a jamais été ainsi, mais que ceci ne vous affecte pas. Aux jeunes gens, vous êtes chrétiens, vous avez une nouvelle nature, une nouvelle perspective sur le monde, une nouvelle force du Seigneur, le Seigneur est avec vous. Oh, ayez pitié du monde, essayez de gagner les gens du monde et ayez cet amour pour les perdus, mais ne soyez pas modelés par le monde, dit l'apôtre Paul, Romains 12. Ne soyez pas limités et mis dans ce moule du monde, en particulier de nos jours. De nos jours, beaucoup de gens disent que de nos jours, nous ne pourrions pas avoir la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale parce que nous abandonnerions très rapidement. Nous ne sommes plus solides et forts, ou que le monde ne vous modèle pas. Oh, ce n'est pas une plainte contre vous, mais nous nous rassemblons en tant qu'Église. Certains jeunes qui étaient réguliers, nous ne les voyons plus. Oh, je sais que c'est un sujet sensible, en particulier pour les plus âgés. Et tous les jours, on nous parle du coronavirus et vous devez faire attention. Vous devez être en souci pour votre famille et être responsable et prendre les bonnes décisions. Mais les jeunes gens n'ont pas besoin de se faire beaucoup de soucis, mais nous ne les voyons plus, ils sont terrifiés de venir. Peut-être qu'ils sont sortis une ou deux fois. Et certains, malgré tout, ils rencontrent des amis et ils sont proches l'un de l'autre. Donc ce n'est pas le problème. Et le diable vous dit « Oh, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin d'être consacré autant qu'auparavant, je peux simplement aller à l'église de temps en temps. » C'est le diable qui vous murmure ceci. Il vous murmure à l'oreille « Oh, on n'a pas besoin de faire ceci. » Vous avez d'autres priorités et ceci à faire et cela, il veut vous rendre faible pour que vous soyez un chrétien qui n'est pas consacré, qui est mou, qui a un pied dans le monde, un pied dans l'église. Mais faites attention, ce passage nous parle et cela n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ainsi, il n'est donc pas surprenant que ses ministres, ses soi-disant apôtres, ses faux apôtres, se déguise aussi en ministre de justice. Et regardez ceci, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Ils renient la grâce, ils veulent les œuvres et ils seront jugés par leurs œuvres. Notre temps est passé. Oh, chers amis, je voulais continuer dans cette grande consécration de l'apôtre Paul, sa consécration dans le ministère, versets 16, versets 17, versets 18, versets 19. Ils sont complexes, mais c'est là ce qu'il veut dire. L'apôtre Paul dit « Je ne veux pas faire ceci. Je suis comme un insensé en parlant de moi-même, mais je le fais de manière si réticente. » mais vous m'avez forcé à parler de moi-même pour vous montrer ce que vous avez méprisé, non pas seulement moi, mais les autres prédicateurs avec moi qui étaient consacrés. Et ces faux enseignants vous amènent dans la captivité, au verset 20. Ils vous assujettissent, ils vous dévorent, et ils vous frappent au visage même, dit le verset 20. Oh, je pense que c'était littéral, ces gens étaient durs. Et ensuite ce grand passage où il parle de ses privations, de ses persécutions, de ses difficultés. Au verset 22, et nous verrons ceci une autre fois, l'un des passages les plus extraordinaires de cette épître. Trois questions pour commencer. Sont-ils hébreux ? Je le suis aussi. Ils disent qu'ils sont israélites ? Je le suis aussi. Ils disent qu'ils sont de la postérité d'Abraham ? Je le suis aussi. Et ensuite, la différence, la grande différence. Sont-ils réellement des serviteurs de Christ ? C'est là le sens du verset 23. Je parle en imprudent, en insensé, je ne veux pas faire ceci, mais c'est nécessaire. Je le suis plus encore. Et nous verrons ces versets plus tard. Il parle de ses travaux, de ses blessures, de ses emprisonnements. Ceci est fascinant. Un passage difficile, important pour nous, chers amis. La consécration totale de l'apôtre Paul. Dans les années 1980, il y avait un commentateur très connu qui est décédé après cette année, William Hendrickson, qui est venu nous parler pendant notre conférence de théologie. Et je me rappelle qu'il nous disait à un ou deux d'entre nous, ses commentaires sur 1 Corinthiens n'ont jamais été finis et publiés, mais il y travaillait et il s'est dit, « Oh, j'aime cet homme, sa consécration pure. » Et vous voyez ceci dans les lettres de l'apôtre Paul, nous verrons ce grand passage. Et j'ai pensé à la consécration, j'ai pensé à un livre que j'aimerais juste mentionner. Un livre que j'ai vu en 1957, qui était très répandu parmi les chrétiens étudiants dans cette année-là. Et le titre de ce livre, c'était un mot, sacrifice. Vous pouvez encore trouver des copies de ce livre. Une couverture rouge avec simplement ce titre, sacrifice. Ceci parlait de consécration, de sacrifice dans la vie chrétienne. Et ceci a réveillé les gens comme une fusée derrière nous en tant que jeunes. Écrit par un homme, M. Guinness, qui était né en 1903 et qui a étudié ici la médecine à Barts. Il était docteur, mais il n'a jamais pratiqué en tant que docteur parce que quelque chose s'est passé. C'était un jeune homme chrétien. Et je ne sais pas comment, mais une société missionnaire voulait l'envoyer au Canada dans une mission seule pour créer des groupes chrétiens dans des universités et pour évangéliser. Il était probablement très prometteur. Il était très grand. Il a toujours une tête de plus que les autres sur les photos. Et quand vous lisez ceci, il a été envoyé au Canada avec 14 livres sterling, avec un manteau chaud parce que c'était l'hiver, et avec un ticket seulement l'aller, pas de retour. Pensez à ceci de nos jours, et il devait travailler. Et sa mission, c'était de trouver des réunions chrétiennes et de convertir les âmes dans toutes les grandes universités. Et il est allé, et il a fait ceci. Il est allé en 1930, 31, 32, et il a commencé des réunions à l'université de Toronto, une université, puis une autre, et après 2-3 ans, il est revenu à Londres. Le Seigneur l'a utilisé réellement. Et ainsi, ils ont fait la même chose, à nouveau. La société missionnaire a dit « Oh, il n'y a pas de réunion parmi les étudiants en Australie. Voici un peu d'argent et un ticket, un aller simple. » Et il va en Australie. Et il est allé. Et il a vécu par la foi. Il est allé à Sydney, puis dans une autre université et une autre. Et il a créé par la puissance de Dieu des rassemblements chrétiens. Et il y avait des conversions parmi les étudiants. Et il est devenu pasteur, prédicateur. Et il n'a jamais pratiqué la médecine. Il est décédé en 78-79, je crois, mais ce livre, Sacrifice, à l'époque, était publié en 1936 et il a été redécouvert dans les années 50 et les jeunes gens étaient retournés par ce livre. Et c'est l'enseignement dont nous avons besoin de nos jours, le sacrifice, la consécration, les jeunes gens qui veulent être totalement différents de la société molle, autour d'eux, mais de chercher à gagner les gens pour le Seigneur. L'apôtre Paul, sa consécration totale, sa défense de la foi et son esprit de sacrifice. Chers amis, réveillons-nous et que cette sortie de confinement, nous puissions l'utiliser pour que ce soit un temps pour nous reconsacrer au Seigneur. Je me rappelle, dans ces années-là, mais je dois arrêter bientôt, parfois vous allez dans une église et vous découvrez rapidement que c'était une bonne église, mais qui n'était pas consacrée. Tous les membres vivent leur petite vie terrestre, leur petite vie mondaine. Il n'y a pas d'évangélisation. Oh, ils parlent de leurs vacances en Suisse, etc. Et tout le monde a un bon temps de communion fraternelle. Mais il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de consécration. Et ceci seul, c'est la vie chrétienne authentique.